Voilà le premier enseignement. J'ai pensé que ça serait intéressant de vous donner une idée de ce que peut de ce que vous pouvez vivre dans des états de concentration forte, parce que dans les retraites, donc, vous avez la possibilité d'avoir une concentration beaucoup plus élevée. On travaille la concentration les trois premiers jours, et c'est difficile les trois premiers jours, mais après trois jours, les choses s'apaisent et on a une concentration meilleure. Donc, et dans ce cas-là, je vous donne un peu une idée de ce qui se passe quand vous vivez les états de concentration. Parce qu'il y a différents états. Alors, la concentration, elle consiste en quatre paliers de base qu'on appelle des jhanas. La première étape avant le premier jhana, c'est ce qu'on appelle l'attention appliquée. Et ça, quand une personne a des troubles de l'attention, justement, il lui manque celle-là. Cette attention appliquée, elle existe chez tout le monde, même chez les non-méditants. Et on l'a surtout quand on est très intéressé à quelque chose en plus. Alors on s'y met puis on y reste. Et donc c'est le fait de s'y mettre et de tout lâcher sur le côté. C'est une concentration préparatoire qu'on trouve quand il s'agit de se concentrer sur des activités de la vie conventionnelle. Donc c'est simple. Ça peut être conduire, ça peut être couper des légumes pour faire une soupe, ça peut être faire du pain, tout ça. Voilà. On l'appelle aussi concentration préparatoire. Voilà, donc. Et quand on fait l'expérience de cette attention appliquée, qui est préliminaire, ben, dans ce mode, on se dit, bon, ben, je laisse tomber ces choses secondaires, je ne veux plus de distraction, je vais me concentrer sur ça. Vous voyez, hein? C'est ce qu'on fait pour toutes les choses de la vie. Si on veut bien les faire, il faut se concentrer sur une chose. Alors, ensuite, on arrive à la concentration d'accès. Et cette concentration d'accès, elle se remarque par cinq états que vous allez vivre. La première, c'est la fixation initiale de la pensée. C'est-à-dire que vous décidez d'avoir votre attention portée sur quelque chose et vous commencez le processus. Ensuite, ce processus commencé, quand votre esprit part ailleurs, vous le ramenez. Et par ailleurs, vous le ramenez, vous voyez. Donc ça, c'est d'appliquer l'attention. Vous vous appliquez et petit à petit, vous avez ramené suffisamment l'attention et elle commence à rester. L'esprit est moins distrait. Donc là, c'est la fixation soutenue. C'est-à-dire, vous soutenez l'attention sur un point focal. Donc, c'est la deuxième composante. La troisième, c'est que donc, vous choisissez un point focal sur lequel poser l'esprit. Donc, ça se résume à avoir, à vivre l'unicité de l'esprit sur un point focal. Donc, les gens qui font du multitasking ne savent pas faire ça. Ils disent « j'ai jamais fait ». Parce qu'ils ont l'esprit sur deux ou trois choses en même temps. Donc, ils ne peuvent pas aller plus loin que ce premier stade de concentration de l'accès. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez obtenu suffisamment de fixation soutenue sur un objet principal de concentration, vous arrivez à une certaine joie. Et un certain ravissement, une certaine extase. Parce que finalement, il y a quelque chose qui s'ouvre et vous sentez que vous pénétrez par une porte qui s'ouvre toute seule. Et donc, ça apporte aussi de la béatitude ou du bonheur. Voilà, les deux sont synonymes. Vous voyez ? Donc, ce sont les deux autres facteurs dans les cinq. Hein? L'extase, le ravissement, vous le sentez quand vous sentez, par exemple, les cheveux se dressent sur votre tête, où il y a des frissons, où la respiration prend une autre qualité, quelque chose s'ouvre, où ça se débloque quelque part. C'est le corps parle et ça montre que là, vous parvenez à un espace intérieur plus calme. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que dans cette étape de concentration d'accès, les cinq entraves de la méditation se dissolvent. Ces entraves sont l'attachement au plaisir des sens. Ça, c'est la première. C'est-à-dire, l'attachement au plaisir des sens, c'est se dire, par exemple, « Oh, tiens, j'ai soif, j'ai pas bu, j'aimerais bien boire. Je vais me lever et puis je vais boire quelque chose. » Ou, je sais pas moi, il se passe quelque chose... Vous pensez à vos vacances ou quelque chose, et puis c'est agréable, et vous vous y attachez, et vous rentrez dans l'histoire de planifier vos vacances. Ou des choses comme ça, vous voyez, où finalement, il y a une partie de vous qui part dans cette voie qui n'est pas là, ce qui se passe ici et maintenant. C'est dans quelque chose que vous construisez à partir de sensations agréables qui arrivent avec votre esprit qui fabrique toutes ces idées, toutes ces choses, vous voyez. Le deuxième empêchement, ces empêchements vous empêchent de méditer ou si vous méditez, vous font arrêter la méditation. Hein? Donc le deuxième, c'est la malveillance. Et ça, c'est très fort aussi. Parce que, par exemple, si vous vous sentez en colère, ou désespéré, ou quelque chose, et que ça prend le dessus, ça envahit votre esprit comme un cancer. Et finalement, il n'y a plus de place dans votre esprit pour quelque chose d'autre. C'est ce qui se passe avec la malveillance. Je crois qu'on donne un peu aussi une image de mettre une goutte de colorant rouge dans de l'eau. Eh bien, l'eau est colorée et vous ne pouvez plus enlever le colorant. Hein, c'est à ce point la malveillance. Ça colore vraiment. C'est très difficile à cerner, à vivre et ensuite à travailler. Et ça, vous le savez, puisque on le vit tous. Hein. Et donc, il y a des outils, il y a des façons d'aborder ces états de malveillance envers soi-même ou envers les autres, hein, l'un ou l'autre. Le troisième empêchement, la troisième entrave, c'est l'agitation. Vous vous sentez trop agité, c'est impossible que je sois assise sur mon coussin immobile, je peux plus, j'y arrive pas, j'ai envie de bouger, j'ai envie de marcher, voilà, j'ai des choses à faire, voilà, c'est l'agitation. L'esprit est tellement agité que le corps finalement devient agité. C'est ce qui se passe la nuit. Finalement, on n'arrive plus à dormir parce que l'esprit est tellement agité que le corps ne peut plus se détendre. Hein? Ça aussi, c'est très dur à travailler. Pour les personnes qui ont un esprit très agité et qui n'arrivent pas à le calmer, il est conseillé de faire des pratiques de méditation marchée avant de faire des méditations assises. Voilà. La quatrième entrave, c'est l'opposé. C'est l'endormissement. C'est le brouillard mental. Et là, je dirais que c'est le plus difficile. Ils sont tous très durs, mais celui-là, il est encore plus difficile. Parce que on commence à s'endormir un petit peu. On a la tête qui tombe en avant. Puis on la récupère, hein, on la remet bien droite, mais malheureusement, on a commencé ce glissement de terrain qui mène à un écroulement. C'est comme ça, hein, que quand il y a un glissement de terrain, on ne peut pas l'arrêter. Hein. Ouais, c'est pareil avec ça. Donc, je donne toujours l'image de vraiment... Il faut vraiment être très vigilant. Parce que si ça vous arrive, dès que vous sentez la tête qui tombe en avant, la première fois, déjà vous avez été trop loin. Qu'est-ce qui se passe juste avant ? Juste avant, on a des idées comme une vache sur un papillon. Tiens, quelle drôle d'image. On a des images bizarres, c'est un peu des rêves éveillés. On a des pensées, des choses qui ne sont pas branchées à la réalité. Et ça, c'est déjà, on est déjà parti dedans. Quand ces choses vous arrivent, déjà là, vous vous dites, attention, maintenant, c'est maintenant que je dois arrêter cette descente vers l'endormissement. Et pour l'arrêter, donc, on va mieux respirer, on va se tenir encore plus droit en ouvrant bien la cage thoracique, les épaules, au besoin les yeux ouverts, Et si on est allongé parce qu'on est malade ou quelque chose, on lève le bras. Parce que dès qu'on commence à s'endormir, le bras tombe. Donc celui-là, il est très difficile et souvent, bon, donc on vit une demi-heure de presque tomber de sommeil et qu'on se relève tout le temps. Et après la demi-heure, ça s'estompe et après on est bien éveillé. Donc c'est une demi-heure difficile à vivre, mais après, si on passe outre, on retourne à une grande présence vigilante. Et la cinquième entrave, c'est le doute sceptique. Et celui-là, il est pernicieux, il est pervers un peu. C'est la petite voix dans votre tête qui dit quelque chose qui n'est pas forcément ce qui se passe, mais que votre esprit est en train de se dire. Comme, je ne sais pas finalement si c'est le bon enseignement, ou si je ne sais pas si c'est le bon enseignant, ou je ne sais pas si c'est le bon groupe avec qui je devrais méditer. Je ne sais pas si c'est la bonne lecture que je devrais faire pour éveiller ma pratique de méditation. Je ne sais pas si, etc., etc. Donc là, vous doutez de tout. Vous doutez aussi de vos capacités. Je ne sais pas si j'en suis capable. Voilà. Vous doutez des vôtres, vous doutez des capacités des autres. Et donc, vous remettez tout en question et il y a un très sérieux empêchement pour que vous puissiez vous mettre à l'écoute de vous-même, puisque vous manquez de confiance en vous et de confiance dans les autres aussi, parfois. Voilà. Hein? Donc, ces cinq empêchements que j'ai cités, l'attachement au plaisir des sens, la malveillance, l'agitation, le brouillard mental, l'endormissement et le doute sceptique. Ces cinq empêchements sont là très forts pour vous empêcher de méditer. Ou si vous commencez à méditer, pour vous empêcher de continuer dans la méditation. Et ce qui se passe, c'est que quand vous entrez dans la concentration d'accès, eh bien, vous sautez par-dessus ces difficultés. Et c'est la même chose avec les pratiques de yoga et la relaxation. Quand vous faites un peu de hatha yoga, des mouvements, la respiration, ensuite la relaxation pour 10 minutes minimum, tout se réinitialise en vous. Et quand vous commencez la méditation, vous l'avez senti tout à l'heure d'ailleurs, j'ai vu, vous étiez tous sans bouger, vous aviez envie de continuer. Eh bien, voilà ce qui arrive. C'est-à-dire que tous les obstacles sont partis, ils se sont dissous, et vous vous sentez là, centré, dans cette, justement, concentration d'accès, où il y a la béatitude, la joie, l'unicité de l'esprit sur un point focal et la fixation possible et continue. Donc, quand vous arrivez à ce niveau, vous arrivez au premier jhana. Voilà. À la première étape. Et là, vous êtes donc dans la possibilité de passer à la vitesse supérieure, à des voyages encore plus subtils. Ça sera le deuxième jhana. Le deuxième jhana, On n'a plus besoin de la fixation initiale, puisqu'on y est. Et on n'a plus besoin de la fixation soutenue, puisqu'on y reste. Enfin, ces deux choses, c'est fait. Et on peut passer à l'unicité de l'esprit, ça reste. Il faut toujours rester focalisé sur une seule chose, un point focal, et l'esprit se pose dessus. Ça, c'est essentiel. Et qu'est-ce qui se passe donc ? Alors, il y a toujours l'extase et la béatitude. Ces deux ressentis, ils sont corporels, hein. Sont là. Parfois vous sentez l'un, parfois vous sentez l'autre. Hein. La béatitude, c'est plus calme, c'est plus posé et c'est plus enveloppant. Alors que l'extase, c'est plus, c'est du feu, ça brûle, ça vous excite. Voilà. Et les deux peuvent être là. Et donc il y a deux autres facteurs qui arrivent. Il y en a un, c'est le calme intérieur. Quelque chose se pose. C'est comme quand vous êtes dans un cocon. C'est-à-dire que tout se calme à l'intérieur de vous. Même s'il y a du bruit autour, à l'intérieur de vous, c'est calme. Et ça, Michael Jordan, qui est un joueur de basketball aux États-Unis, on lui disait, mais comment vous faites pour être toujours au bon endroit au bon moment, et quand il faut mettre un panier, vous êtes là pour le faire. Vous avez la balle et vous êtes au bon endroit pour mettre le panier. Et vous ratez jamais le panier. Il a dit, parce que je suis dans la zone. Eh bien, sa façon d'exprimer ce calme intérieur, c'est la zone pour lui. C'est-à-dire que dans un match de basketball, il peut se passer des dizaines de choses à la fois, les gens courent partout, il y a du bruit, tout ça. Et lui, quand il est dans la zone, il y a ce calme intérieur et tout est clair et tout se déroule lentement. C'est étonnant. Hein? Et donc, il a le temps de se poser, de voir là où les choses sont justes et ce qu'il faut faire. Il appelle ça la zone. Voilà. Et un autre facteur, c'est la concentration pure. C'est-à-dire que votre concentration est aussi forte que le soleil dont on a concentré les rayons dans un prisme et dans une loupe, et on arrive à faire du feu à partir de ça. Vous voyez ? Donc, c'est ça la concentration pure. Il faut faire attention, parce que la concentration pure, ça fait augmenter l'ego. On se dit, ah, moi je suis un dieu, moi ça y est, je sais, je connais les états de concentration pure, je suis capable, voilà. Hein? Et il y a beaucoup d'occidentaux et d'asiatiques qui se sont cassés la figure là-dedans. Parce qu'ils se disent, moi je suis un dieu, et puis bon, après il y a des tas de bêtises, ils font des tas de bêtises, parce qu'ils se croient des dieux, et c'est pas vrai du tout. Simplement qu'ils se prennent pour ça. C'est un peu comme la métaphore de rouler dans un 4x4. Vous avez le 4x4, le SUV, SUV, hein. Et cette voiture est très performante, elle est plus haute que les autres, elle va plus vite et elle roule n'importe où. Donc vous pouvez passer sur un koala, vous ne le verrez pas, vous ne le sentirez même pas. Vous pouvez doubler tout le monde et vous pouvez écorcher une voiture à côté, ça arrive. Et voilà. Et vous vous rendez pas compte parce que vous êtes un bolide et vous allez tout droit. Vous comprenez? C'est ça la concentration pure. Il y a cette force. C'est formidable. Ça donne de la puissance. On peut arriver à beaucoup de puissance. Mais cette puissance, souvent, l'ego nous empêche de l'arrêter. Et on est pris dans ce cercle vicieux. Donc ça, c'est le deuxième jhana. Donc dans ce deuxième jhana, il n'y a plus la fixation initiale ou soutenue, c'est plus nécessaire, puisqu'on a l'esprit sur un point focal, il y a l'unicité de l'esprit. Donc on sent le calme intérieur et la concentration pure. Et ensuite, on a aussi l'extase et la béatitude. Donc il y a toujours cinq différentes composantes. Hein? Donc, dans ce deuxième jhana, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est tellement focalisé que c'est comme du soleil dont on concentre les rayons et ça fait du feu. Ça brûle tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? On manque d'investigation, d'humilité et d'écoute, finalement, là-dedans. On part comme une flèche. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là et ils disent, ça y est, j'ai médité. Puis ils partent et ils continuent leur vie. Alors, il y a le troisième jhana, si on veut continuer la méditation. Et dans ce troisième jhana, ce qui se passe, c'est que l'extase, le ravissement, va se résorber, va se calmer. C'est trop fort, ça brûle. Et il y a même des maîtres qui, quand ils vivaient ces extases, ils étaient brûlés là, dans la région au-dessus du cœur et vers le cou. Hein? Ramakrishna, quand il est mort, on a dit qu'il avait eu un cancer du cou. En vérité, ce n'est pas vrai, c'était ses états d'extase. Il avait beaucoup d'extase. Et donc, ça le brûlait. Hein? Ça lui brûlait littéralement. C'est comme court-circuité, quoi. Tout s'éteint, soit si ça continue à brûler tous les fils, le système nerveux, quoi. Voilà, c'est ce qui arrive. Hein. Et c'est peu raffiné, en plus, cette extase. Donc, dans le troisième jhana, on enlève ce qui est peu raffiné. Mais on garde toujours la béatitude, le bonheur. Hein. Cet autre aspect qui était dans le premier jhana. On garde toujours l'unicité de l'esprit sur un point focal. Ça, c'est très important. Sinon, il n'y a plus de concentration. Mais, alors, ce qu'on perd, finalement, et c'est à un prix où on est gagnant, on perd la concentration pure. On perd la force du 4-4. Pour arriver à la pleine conscience. C'est là où la pleine conscience commence à venir sur le tableau. Hein? Parce que la pleine conscience, c'est la capacité d'être avec les mouvements de la vie, les changements. Vous voyez? Et de surfer avec. Il y a des hauts et des bas. Et on vit avec, on surfe avec. Donc, cette pleine conscience, elle nous amène à l'intelligence émotionnelle. Et ça, on n'en a pas avec la concentration pure. C'est difficile. On n'a pas cette intelligence émotionnelle parce qu'il n'y a pas la sensibilité. On est complètement drivé sur une seule chose. Alors que là, avec la pleine conscience, on peut observer les différentes choses de l'esprit, quand ça va bien, quand ça va pas bien, tout ça. Et alors ça nous fait vivre un état qu'on appelle la claire compréhension. C'est une capacité de l'esprit. La claire compréhension, c'est la capacité d'allier la sagesse et l'attention. C'est-à-dire qu'on est attentif, mais en même temps, on a une sagesse. Grande sagesse, vous voyez. Donc finalement, la sagesse va équilibrer. La sagesse va permettre, finalement, de décider comment se comporter, comment faire un certain travail avec certaines émotions, etc. Elle va nous aider à vivre les trois caractéristiques qui sont anatta, c'est-à-dire le non-soi, c'est-à-dire la vacuité. Ce sont tous des grands mots, mais en vérité, c'est des choses que vous connaissez. Ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que vos états de conscience modifiés sont plus subtils, vous pouvez sentir dans votre corps, d'ailleurs avec le scan corporel, vous l'avez tout de suite, à la fin du scan, vous pouvez sentir votre corps, il parle, vous sentez toutes les parties du corps, vous voyez. Et vous pouvez sentir les parties du corps qui vous font peut-être mal, ou des parties du corps qui ont des mémoires, ou les parties du corps qui vous font vous sentir bien. Ou il y a plusieurs choses qui arrivent dans votre corps en même temps. Et vous avez la capacité d'écouter tout ça. C'est comme si vous alliez dans un lieu où vous faites des expériences. Et vous avez plusieurs petits tubes, et chaque petit tube a un facteur différent. Et donc il y a un petit tube avec ce facteur A, il est vert, avec le facteur B, il est bleu, avec le 1, voilà. Donc la sagesse, c'est de voir tous ces facteurs, de voir tous ces petits tubes. Et pas seulement de les voir, mais d'utiliser l'attention, qui est une composante de la concentration, pour décider quel est le petit tube que vous allez choisir pour continuer votre expérience. Vous voyez ? On n'est plus du tout dans le deuxième jhana où on trace comme un 4x4 sans rien voir ce qu'il y a sur les côtés. Là, on regarde plusieurs facteurs qu'on vit à l'intérieur de soi. Et on va décider lequel, avec lequel on va expérimenter. Donc, anatta, c'est faire l'expérience de toutes ces choses qui sont en soi et qui arrivent, qui sont le mouvement de la vie. Et il n'y a plus de moi, je, mon histoire, tout ça. Non, ce sont juste des milliards de cellules qui picotent dans votre corps. Et c'est tout ce que c'est. Et vous le sentez après le scan, ou dans des méditations concentrées. Vous sentez votre corps, vous sentez l'essence de vie, l'énergie qui vous anime. Et rien de plus, c'est pas besoin d'avoir une carte d'identité, un passeport, de savoir quel âge vous avez ou quoi que ce soit. Ça n'a aucun âge, cette énergie de vie. D'accord ? C'est ça, le non-soi. C'est ça, il n'y a plus d'histoire personnelle là-dedans. C'est juste l'énergie, l'essence de vie. La pleine présence nous aide à faire ça. Anicca, ça c'est l'impermanence. C'est la deuxième caractéristique. Le non-soi et l'impermanence. L'impermanence, c'est donc de réaliser que finalement, les choses ne sont pas toujours d'une certaine façon. Ça change toujours. C'est comme le temps, c'est comme les saisons, ça varie tout le temps. Et c'est des cycles. Et donc, la sagesse, c'est d'observer ces cycles et d'aller avec eux, de les traverser. Voilà. Et la troisième caractéristique, c'est dukkha, c'est-à-dire souffrance. C'est que, voilà, une autre caractéristique, ces trois caractéristiques sont toujours avec nous. Et on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de choses qui nous font souffrir, et que quand on les observe, finalement, on est capable de voir. Quand on vit quelque chose qui nous fait souffrir, par exemple, de la colère, hein, ça nous fait souffrir. Alors, on remarque la colère quand elle est là, comment ça s'exprime, comment on le sent. J'ai le sang qui me monte à la figure, etc. etc. Hein, voilà, j'ai du mal à rester, à méditer tranquille, je suis en colère. Voilà. On observe, deuxièmement, qu'est-ce qui se passe quand la colère disparaît et comment on sent quand il n'y a plus de colère ? On va remarquer donc que pour arriver à l'état de colère, il y a une progression vers quelque chose. Hein ? Le mental, les émotions, tout ça se met en branle et la colère augmente. Hein ? Donc on va observer le cheminement que fait notre esprit pour nous amener à la colère. Hein ? Et on va observer donc le cheminement que fait notre esprit pour faire baisser la colère. Il y a peut-être des pleurs, de la tristesse, de l'humiliation, de l'acceptation, différentes choses qui nous aident finalement, qui font baisser la colère. Et finalement, le cinquième, c'est qu'on se rend compte que on peut travailler à garder des états où la colère ne vient pas. Donc, ces cinq choses vis-à-vis de quelque chose qu'on vit, hein, ces cinq différentes étapes font partie de la souffrance. C'est-à-dire que quand on souffre finalement, grâce à la méditation, cette troisième caractéristique, on peut l'observer sous tous les angles et se rendre compte que finalement, on peut travailler avec et qu'on n'a pas besoin d'être complètement obnubilé et transporté et enlevé comme dans un tsunami par ce qui nous arrive. Qu'on peut le travailler sous différents angles. Voilà. Donc, ça c'est le troisième jhana. Hein? Donc dans ce troisième jhana, la différence avec le deuxième, c'est que dans ce troisième, il y a une intelligence émotionnelle. Il y a une capacité à s'ouvrir à des états, des difficultés, des émotions difficiles. On commence à s'ouvrir à des choses difficiles et on veut bien les observer pour comprendre comment travaille notre esprit, comment on peut le diriger, comment on peut l'aider. Vous voyez ? Alors que dans le deuxième jhana, il n'y a rien de tout ça. Voilà. Donc, quand on en est à ce niveau de travail intérieur, quand quelque chose nous travaille, quand on dit « Ah, oh, ça me travaille », ben voilà, c'est ça. Et si on veut bien observer ce qui nous travaille, sans jugement aucun, avec grande bienveillance, etc., etc., on peut arriver au quatrième jhana. Le quatrième jhana, il y a toujours l'unicité de l'esprit, puisque c'est la concentration dont on parle à la base. Donc l'unicité de l'esprit, elle est là, c'est une trame qui est dans tous les jhanas, dans tous les états. Mais le bonheur ou la béatitude qui était venu dans le premier jhana et qui était dans le deuxième et dans le troisième. Mais dans le quatrième, comme c'est corporel, c'est quelque chose que vous sentez dans votre corps, ça disparaît. Parce que ça s'apaise, votre corps s'apaise. Et il n'est plus... Si vous voulez, c'est quelque chose qui appartient au corps. Et quand on rentre dans le quatrième jhana, on sent son corps encore. Mais, si vous voulez, il y a plus de neutralité. Et c'est là où on arrive à l'équanimité. C'est-à-dire qu'on n'oscille plus entre... beaucoup ou pas du tout, entre le bien et le mal, entre s'intéresser beaucoup à quelque chose ou s'en foutre complètement, ou toutes les oscillations, toutes les bipolarités qu'on vit dans la vie et qu'on vit en méditation aussi, là, il n'y en a plus. Finalement, les deux extrémités se sont petit à petit rapprochés et on arrive à vivre cette unicité de l'esprit et cette équanimité. Et donc, dans cet état de neutralité, il y a un grand calme aussi. Mais aussi, il y a une grande humilité. Vous voyez, c'est différent du deuxième jhana où il y a le calme intérieur, mais c'est la concentration pure seulement. Et c'est différent du troisième jhana, parce que dans le troisième jhana, on est encore ballotté par des émotions, par des tas de choses, par les trois caractéristiques. Hein ? Et de voir qu'on est attaché à un soi, que tout est impermanent, ça change tout le temps, et qu'on en souffre. Et là, dans ce quatrième jhana, finalement, on a passé tout ça. On est passé outre. C'est un état, si vous voulez, très subtil. Et là, c'est quelque chose, je me souviens d'un grand maître qui nous disait, ces états de concentration, quand ils deviennent de plus en plus subtils, il faut vraiment s'accrocher pour y rester. Parce que si vous vous dites, j'ai faim, et vous avez envie de vous lever pour faire chauffer votre soupe, pour que vous l'ayez bien chaude dans une demi-heure, ou je ne sais pas quoi, ben c'est fini. Vous avez quitté la possibilité d'aller au quatrième jhana. Donc il faut vraiment s'accrocher comme si vous étiez en train de tenir un vieux remonte-pente. Je ne sais pas si vous avez connu les remonte-pente autrefois. On s'accrochait à un câble, il ne fallait pas lâcher, parce que si on lâchait, et on ne remontait plus la pente, on la redescendait dans l'autre sens. Et c'est pareil avec ça. Il faut vraiment s'accrocher. C'est pour ça que l'unicité de l'esprit est la trame qui reste tout le long. C'est elle qui va nous mener, c'est comme le remonte-pente, jusqu'en haut de la montagne. Voilà. Donc, ces quatre jhanas sont... déjà quelque chose d'intéressant à vivre en retraite. En retraite, c'est possible. C'est beaucoup plus dur dans la vie de tous les jours. Parce que vous n'avez pas la possibilité de vous cocooner comme vous faites en retraite. Donc c'est à ce moment-là, dans les retraites, que vous pouvez aller dans cette profondeur. Donc à partir de demain, on va y aller sérieusement. La pratique va être plus formelle, plus condensée, plus intense. Vous voyez ? Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les retraites, la concentration augmente. La pleine conscience aussi, hein. On est plus conscient de tous les gestes, de toutes les choses qu'on fait. Mais ce qui se passe, c'est que quand on sort de retraite, votre concentration baisse à nouveau. Vous n'arrivez plus à atteindre ces états beaucoup plus subtils. Mais vous vous rendez compte, quand vous êtes chez vous, que vous êtes beaucoup plus souvent en pleine conscience. Beaucoup plus souvent présent à ce que vous faites ici et maintenant, sans rappel nécessaire. C'est étonnant. La concentration, on la travaille donc dans les retraites, dans les monastères, dans des lieux qui sont bien feutrés pour nous cocooner. Mais au sortir de retraite, même si on n'a plus autant de concentration, la pleine conscience va rester très vive. Et ça, c'est le plus beau de l'affaire. Parce qu'on se dit, mon Dieu, c'est formidable, parce que je me sens vraiment présente à beaucoup de moments de ma vie maintenant. Et on se dit, tiens, je veux refaire une autre retraite. Et c'est là où il y a ce cycle vertueux, où finalement on se rend compte que plus on fait de retraite, plus on est en présence, attentive à ce qui se passe ici et maintenant. Et donc, moins on est dans l'exil, et plus on est dans le royaume. Parce que pour moi, c'est ça. L'exil, c'est de ne pas être présent à ce qui se passe ici et maintenant, c'est d'être ailleurs. Et le royaume, c'est d'être ici et maintenant, là où, bien, ici, voilà. Tranquille. Tranquille ou pas, hein, il y a peut-être des choses difficiles à vivre, etc. Mais n'empêche que vous avez ce noyau de présence, et d'écoute, et de bienveillance, et de respect, de dignité, voilà. Ça donne confiance en soi. Voilà, merci.